Voilà, donc F6 GPX opérant F6 KGL. Donc on commence le cours. Nous en sommes à la page 44 et donc on va commencer un peu la grande salade, c'est-à-dire qu'on va commencer à mélanger un peu tout ça, tout ce qu'on avait appris sur les lois d'Ohm, loi de Joule, hein, mes deux grandes lois d'électricité. On va un petit peu compliquer les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle d'électricité, jusqu'à présent, on avait parlé de courant continu. C'est-à-dire que le courant, il se déplaçait toujours dans le même sens, du plus vers le moins. Or, nous, ce qui nous intéresse, on est radioamateur, enfin tout le monde souhaite le devenir, et donc ce qui va nous intéresser, ce sont les courants alternatifs. Parce que les ondes radio, elles, sont des courants alternatifs. Ce qui veut dire que les ondes radio ne vont pas, enfin le courant ne va pas toujours dans le même sens, mais il va une fois dans un sens, puis une autre fois dans un autre sens. C'est ce qu'on appelle du courant alternatif. Alors alternatif, ça veut dire donc aller dans un sens et dans un autre, mais ça veut dire aussi avec une certaine fréquence. C'est-à-dire que le système se répète. Et se répète de la même manière de période en période. On va voir ce que ça veut dire par la suite. Eh ben oui. Et oui, puisqu'il est alternatif. Donc ça change tout le temps. Ça change tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une inversion de sens, mais c'est une inversion qui se passe doucement. C'est-à-dire que ça, pour passer dans un sens à un autre, ça commence par ralentir, arriver à zéro, puis à repartir dans l'autre sens doucement. Hein, c'est un mouvement. Hein, c'est pas un truc. Voilà, c'est pas un inverseur. C'est pas ce qu'on appelle un inverseur, c'est-à-dire quelque chose qui change de courant, mais très violemment de sens. Ça change de sens, mais de manière continue et de manière sans à-coups, en fait. Hein? En douceur. Et on va voir ce que ça veut dire en douceur. Alors, par contre, on a vu que la loi d'Ohm, elle s'appliquait au courant continu, puisqu'on parlait d'une intensité. Quand on parle de l'intensité, c'est une intensité continue. La tension, même chose. La résistance, on n'a pas cette notion, puisque la résistance reste la résistance. C'est le frein. Voilà, le frein. Qui font, voilà. Le frein restera toujours le frein. Ça va résister au passage du courant continu, mais aussi au passage du courant alternatif. Il n'y a pas de raison. Hein? Alors, par contre, on va être embêté parce que nos lois d'Ohm et de loi de Joule qu'on avait vues, on va être un petit peu embêté pour les appliquer. Heureusement, il y a des gens qui ont réfléchi à la question. On est sauvés. Hein? Donc, alors, quand on parle de courants qui sont alternatifs, on dit ils sont aussi périodiques. Périodique, ça veut dire, enfin, c'est plus parlant. Périodique, c'est que ça revient régulièrement. Régulièrement et de la même manière. Hein? Alors, le courant est qualifié d'alternatif lorsqu'il change continuellement de valeur au cours du temps et que la forme du signal se répète. Hein, c'est les deux choses qui sont importantes. La valeur du courant change tout le temps. Alors, il peut se trouver qu'il y ait des courants alternatifs, c'est-à-dire que le courant va toujours dans le même sens, mais il y en a plus ou moins. C'est encore un courant alternatif, puisque la forme reste la même, et ça, enfin, il reste périodique, hein, puisqu'il se répète régulièrement. Hein? Donc on n'est pas obligé d'avoir une partie négative et une partie positive. Il peut y avoir une partie qui est tout le temps positive ou tout le temps négative, mais le courant change. La valeur du courant change au cours du temps. Ah. ça reste quand même un courant alternatif ou périodique. C'est un courant un peu particulier, mais ça s'en éteint. Alors donc la forme du signal se répète. Ça c'est important. Il faut que le signal soit toujours et toujours la même tête. Parce que sinon ce n'est pas un signal alternatif. Hein? Et donc on ne peut pas lui appliquer les lois qu'on va voir après. Enfin, on va voir plus particulièrement, il y aura un courant qui nous intéresse. Les courants alternatifs peuvent prendre plusieurs formes. Alors là, j'ai dessiné toutes les formes qui existaient. On va en voir, il y en a une bien particulière par la suite. Par exemple, on a le signal carré. Le signal carré, c'est typiquement le signal où on inverse, hein, ces carrés, c'est-à-dire qu'un coup c'est positif, et tout de suite après, il y a un inverseur, et clac, ça devient négatif. Donc ça, c'est un courant périodique, mais carré. C'est ce qu'on appelle un signal carré. Et c'est typiquement les signaux carrés, c'est ce qui est issu de l'informatique. Un signal carré, c'est typiquement un signal informatique. Hein, puisque l'informatique, c'est 0 ou c'est 1. Hein, donc, soit ça passe dans un sens, soit ça passe pas. Hein, ok ? Donc ça, typiquement un signal carré. Et on remarque que le signal carré, la longueur du courant en dessous est égale à la longueur du courant au-dessus. D'accord ? Les deux temps sont bien égaux. Voilà. Ensuite, on a une autre forme de signal. Alors pour la question de Walter, les amplificateurs opérationnels, un ampli-op, c'est effectivement quelque chose qui génère du signal carré. Enfin, on verra ça plus tard, hein, plus loin. Mais effectivement, l'ampli-op est un générateur, on peut s'en servir comme générateur de signal carré. Alors, autre forme de signal, le signal triangulaire. Ça monte, enfin la tension monte, et puis après, crac, elle descend. Et de manière continue. Hein, y a des pointes. On voit qu'il y a des pointes. Hein, voilà. Ensuite, on a le signal d'Ansi. C'est-à-dire que ça monte tout d'un coup, et puis ça descend. Puis ça remonte d'un coup, puis ça redescend tout doucement. Ça, c'est ce qu'on appelle un Ansi. Ensuite, on a des signaux impulsionnels. Donc là, c'est typiquement, auditivement, c'est les parasites. Un parasite, c'est un signal impulsionnel. Ça fait des craquements. C'est typiquement le signal impulsionnel. D'accord ? Donc tout ça, ce sont des formes de signaux alternatifs. Quand on dit qu'on a un signal alternatif, en fait, on peut après mélanger ces signaux alternatifs. Et un mélange de signaux, c'est-à-dire mélanger, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je superpose, j'additionne les tensions point par point et ça me donne encore un signal alternatif. Exemple. Alors je peux aussi mélanger des signaux continus, un signal continu avec un signal alternatif, et ça me donne encore un signal alternatif. Exemple. J'ai mon signal carré. Voilà, comme ça. J'ai un générateur de signal carré. Et donc il est là. Mon 0 volt est là. Hein? Le 0 volt est plein au milieu. Et j'additionne à ce signal carré un signal de. Alors là, mes pointes, par exemple, là, elles sont à 5 volts. Donc 5 volts en positif et 5 volts en négatif. Donc c'est moins 5 volts. Hein, par exemple. Et j'additionne avec ça un signal qui est de 10 volts. Une tension continue de 10 volts. Et lorsque j'additionne les deux, eh bien ça me donne encore un signal alternatif, mais au lieu qu'il aille de 5 volts à moins 5 volts, ici comme je l'additionne, ici mon 10 volts arrive au milieu. Hein? Donc ça, ça disparaît puisque je les ai additionnés. Donc, et en fait, le 10 volts là, mon signal qui était, qui variait de plus 5 volts à moins 5 volts, maintenant varie de 5 à 15. D'accord? Donc en fait, ce sont des carrés. À un moment, j'ai 5 volts, et puis, je sais pas, moi, une seconde après, j'ai 15 volts pendant une seconde. Voilà. Bon, ça, c'est, on va dire, ça, c'est le temps. Hein? Ça se déroule dans le temps. Là, j'ai une seconde. Là, j'ai deux secondes. Là, j'ai trois secondes. Là, j'ai quatre secondes, etc. Donc, toutes les secondes, mon signal change de tension. Hein? Pendant une seconde, là, je suis à 5 volts, et puis après, pendant la seconde suivante, je suis à 15 volts. Puis après, je redescends, je suis à 5 volts. Puis après, je remonte, je suis à 15 volts, etc. Et ça, c'est toujours un signal alternatif. D'accord ? C'est quoi ? Donc, voilà un petit peu un signal alternatif. Ouais. Ah ben oui, ben bien sûr, il y a des appareils qui permettent de mesurer ça, ou de visualiser ça. Alors on verra ça par la suite. Ça s'appelle un oscilloscope. Ça s'appelle un oscilloscope, ça, ce qui permet de vérifier ça. Parce qu'évidemment, votre voltmètre, qu'est-ce qu'il va faire si vous mettez le voltmètre là? Un coup, il va vous donner 5 volts, un coup 10 volts, un coup 5 volts, un coup 10 volts, si vous avez un numérique. Et la tension, donc, elle va marquer après 5 et après 15. Mais si vous avez un voltmètre à aiguille, analogique à aiguille, le truc, il va pas trop... l'aiguille, elle va frétiller, on va pas trop savoir où c'est. Et le pire, parce que là, on a dit qu'il y avait une seconde entre chaque... l'aiguille, on va voir qu'elle bouge. Mais plus ou vous, si par exemple vous mettez une milliseconde, ah bah l'aiguille, elle bouge plus là. Bah, dangereux, oui. Mais il n'empêche quand même qu'on voit pas. Le voltmètre, quand c'est un voltmètre à aiguille, bah il va vous indiquer la tension du milieu. Et vous allez vous dire, bah tiens, j'ai du 10 volts. Non, vous n'avez pas 10 volts. Vous avez 5 volts et 15 volts. Donc derrière, faut se dire qu'il y a des composants qui vont peut-être pas supporter le 15 volts. Malgré que le voltmètre vous dit qu'il y a pas 15 volts. De même, le voltmètre numérique, si vous mettez ça sur une milliseconde, il va pas faire la différence non plus, lui. Hein. Il pourra pas la faire. Donc de toute façon, vous vous retrouvez coincé. Et quand je dis une milliseconde, c'est un temps qui est très long par rapport aux ondes radio qu'on utilise. Une milliseconde, ça fait une fréquence d'un kilohertz. Un kilohertz, c'est... Il n'y a rien du tout. Ouais. Alors, j'ai des coupures par moment. Alors, bon, ça va commencer. Coupure de plusieurs secondes. C'est reparti. Visiblement, personne. Si, il y en a qui bricolent un peu sur Internet là. Alors je sais pas. C'est peut-être ça qui pose problème. Bon, on va faire un petit blanc sur 144, voir si ça va mieux après. F6, GPX opérant F6, KGL. Bon, donc on reprend. J'espère que ça s'est un petit peu solutionné. Donc on continue. On continue et en fait l'autre, il y a dans le cours j'ai montré un autre exemple de superposition de une composante carrée superposée à une composante triangle. Hein, donc ça donne encore un truc assez compliqué. Mais en fait, c'est quand on a un carré, un signal carré comme on a là tout de suite, on va le redessiner, avec un signal triangle. Alors le triangle, on va se le dessiner. Je vais le dessiner en dessous. Et là, je le dessine comme ça. Alors attendez. Hop. Alors là, ouais. Il faudrait que ça soit pile poil. Voilà, donc c'est peut-être pas extraordinaire, mais ça donne... Donc en fait, quand j'additionne ces deux tensions-là, alors ici j'ai toujours mon 0 volt, et ici j'ai toujours le 0 volt évidemment sur mon triangle, sur les deux côtés du triangle, c'est-à-dire qu'au milieu du carré j'ai du 0 volt, et au milieu du signal triangle j'ai du 0 volt aussi. Et lorsque l'on additionne, alors la webcam, ça y est, elle vient de se rafraîchir chez moi, elle est en train d'être transférée. Et donc en fait, quand on additionne tout ça, les deux signaux, c'est typiquement ce que l'on récupère. La webcam, ça y est, s'est rafraîchie, et c'est typiquement ce que l'on récupère sur la page 44, sur la superposition hein, des deux signaux. Et là, ça donne donc encore un signal alternatif, hein, puisque on voit bien que la forme se répète. Hein. Alors, on a vu différentes formes, mais en fait, il y a une forme surtout qui nous intéresse, nous, et qui va toujours nous intéresser, et d'ailleurs, on va plus que parler que de ça. C'est le fameux signal sinusoïdal. Alors, c'est quoi un signal sinusoïdal? En fait, tout le monde le connaît, mais c'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la poésie sans le savoir, enfin de la prose sans le savoir. En fait, le signal sinusoïdal, c'est typiquement le mouvement du balancier de l'horloge. Un balancier d'horloge, bah oui, quand on le dessine dans le temps, ça fait comme ça. Et c'est un mouvement c'est un mouvement alternatif. Il va dans un sens et dans l'autre, et de manière régulière. C'est typiquement un signal alternatif, ça, parce qu'on connaît sa fréquence, puisque c'est là-dessus qu'on base le système pour régler l'horloge, hein. Et c'est un mouvement qui est régulier. Il n'a pas d'un coup. Autre mouvement, le mécanicien doit connaître ça. C'est la roue qui tourne. La roue et la bielle. Hein, avec voilà. Et ben voilà, donc voilà ce que c'est que le sinus. Donc tu connais le sinus sans le savoir. Ah bah oui, il n'y a plus rien qui tourne. Donc, après avoir vu toutes les formes de signaux alternatifs, alors je précise quand même que en fait le signal sinusoïdal, c'est un signal parfait, mais que malheureusement, dans la nature, et en particulier quand on fait de l'émission radio, on essaye d'arriver au signal sinusoïdal, mais on n'y arrive pas toujours. Ce qui génère quand même des problèmes. C'est là où on va. Alors, mon signal sinusoïdal. Le signal sinusoïdal, c'est quoi? Alors déjà, on va revenir à des définitions simples. Le signal sinusoïdal, la fonction sinus, hein, donc la fonction mathématique sinus, c'est une fonction mathématique qui est sans à-coup. Alors pourquoi? Parce que la dérivée de la fonction sinus, c'est-à-dire le mouvement d'une fonction sinus, est décrit par lui-même une fonction sinus. Alors ça, mathématiquement, ce qui veut dire que la dérivée d'un sinus est un sinus, ou l'intégrale d'un sinus est un sinus. Donc tout ça, tout ça pour dire qu'en fait, mathématiquement, ça veut dire que ça, c'est un mouvement qui est régulier et stable. Alors bon, oui, mais enfin bon, si tu sais pas ce que c'est qu'une dérivée en mathématiques, ça sert à rien. Mais quand tu auras compris, si, enfin, d'un point de vue mathématique, c'est un mouvement qui, si tu veux, la fonction qui décrit ce mouvement, c'est lui-même ce mouvement. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est très stable. Il est déjà régulier par définition. Alors, de plus, un signal alternatif, un courant alternatif, quelle que soit sa forme, en particulier tout ce qu'on a vu avant, les carrés, les signaux triangulaires, les dents de scie, tout ce qu'on veut. Ça, c'est un mathématicien qui a trouvé ça. Il a dit que n'importe quel signal alternatif, du moment qu'il se répète, il peut être décrit par un ensemble de fonctions sinus. C'est-à-dire qu'en fait, on peut définir un signal carré, comme on a vu tout à l'heure, par, un certain nombre de fonctions sinus que l'on superpose, comme on a vu tout à l'heure. On superpose plusieurs fonctions sinus. Et en les superposant, ces fonctions sinus, eh bien, on arrive à ce signal carré, ou ce signal triangulaire, enfin, au signal alternatif qu'on veut. Et ça, c'est un certain Fourier qui a trouvé ça. C'est un certain mathématicien qui s'appelle Fourier. Et, en fait, quand on va plus loin, on s'aperçoit que tous les signaux, parce qu'en fait, on va s'apercevoir quand on fera de la radio, que au départ, on voulait faire un signal sinusoïdal, et en fait, on n'y arrive pas. Donc, en fait, les signaux qu'on va générer vont être, en fait, une infinité de signaux sinus. De fréquences différentes. Donc au début, on avait dit on va émettre sur une fréquence de la fonction sinus, et en fait, on va émettre sur une infinité de fréquences, parce que notre signal périodique va pas être pur. Ce sont les harmoniques. Voilà. Qu'on va récupérer. Alors, c'est vrai que, bon, quand on émet sur une fréquence, on essaye d'émettre le maximum sur la fréquence et pas à côté. Ça semble évident. Mais, malheureusement, c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est le côté mathématique, le côté théorique. Puis après, quand on voit la pratique, c'est pas pareil. C'est un autre débat. Hein ? C'est pour ça qu'à chaque fois j'essaye de dire ce qui est la théorie, et après là où s'arrête la théorie et là où on passe à la pratique, et puis qu'est-ce que ça génère derrière. Et on va revenir quand on fera plus tard dans les chapitres vers la fin, on va revenir sur ce qu'on appelle les transformées de Fourier, c'est-à-dire la représentation mathématique du signal réel que l'on a. Et qui est donc formé de plusieurs sinus, de plusieurs fonctions sinus, donc de plusieurs fréquences. Alors qu'au début, on voulait qu'une seule fréquence. Donc, voilà. Alors, donc on continue, je vais faire un petit blanc sur 144, F6 KGL opéré par F6 GPX. Voilà, donc on continue. Je regarde de temps en temps quand même les commentaires et de tout le monde. Donc bienvenue à Phil. On espère qu'on le reverra plus souvent. Et puis il y a des bienvenus à Julien aussi de la Martinique, les autres étant des gens relativement que je reconnais, à part le la personne du 94, s'il a un récepteur 144, je pense que ça devrait pouvoir se faire. Je sais pas exactement le 94, je connais pas tous les codes postaux, mais normalement ça devrait pas trop poser de problème. Voilà, nous continuons donc pour notre fameuse fonction sinus. Alors on va faire simple, parce qu'on va pas trop rentrer dans le détail mathématique de cette fonction, parce que c'est pas trop l'objet non plus du cours, hein. On n'est pas là pour faire des cours de maths, sinon tout le monde va fuir. Donc alors une fonction sinus, ça se représente comment? Ça se représente à partir d'un cercle. Donc c'est un cercle. Donc mon cercle, là, je le fais traverser par un axe. Ça, cet axe, c'est le temps. Je mets un T pour dire que c'est le temps. Donc je vais dessiner quelque chose en fonction du temps. Et là, j'ai été un peu loin ici. Et là, donc j'ai dessiné mes deux diagonales. Bon, on les met comme on peut. Ici, j'ai mon 0 qui est là et qui est là aussi, puisque ici c'est ici que je vais commencer à décompter. Par définition, dans la fonction sinus, cette longueur là ça fait 1, c'est-à-dire que le rayon de la fonction sinus, enfin de mon cercle, alors ça s'appelle un cercle trigonométrique. Hein, trigo ça veut dire les angles en grec. Hein. Donc ça, c'est un cercle trigonométrique, ça va me permettre de calculer des angles. Et on va voir que quand on fait, quand on va parler par la suite, on va parler surtout en angle. Quand on va parler de déphasage, on va parler de déphasage en angle. D'accord ? Alors, je rappelle quand même, ici c'est 0 mais 0 degré, ici c'est 90 degrés, ici c'est 180 degrés, et ici c'est 270 degrés. Ou, voilà, alors. Parce que là, 180 plus 90 égale 270. À chaque fois, j'ai 90 degrés. Donc ici j'ai 270 degrés, et si je reviens ici, alors plus exactement ici j'ai mon 0 degré ici, et ici en dessous j'ai 360 degrés. Hein? Et quand on arrive aux 360 degrés, ben on revient à 0. D'accord? Alors vous remarquez que mon cercle trigonométrique, je le calcule toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parce que c'est ce qu'on appelle le sens antihoraire, et c'est le sens c'est ce qu'on appelle le sens trigonométrique. Parce que par principe, ça tourne dans ce sens-là. Alors c'est un principe mathématique. On a dit que ça tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je ne sais pas pourquoi. Ça aurait pu être très bien dans l'autre sens, mais bon, les mathématiciens l'ont défini comme ça. Ce qui veut dire que on peut aussi tourner dans l'autre sens. Ouais, bah, je sais pas si c'est les cyclones, ouais, enfin peut-être, je sais pas. l'eau dans le lavabo qui se vide, je sais pas. Ouais, ouais. Ça, en Australie, ça tourne pas dans l'autre sens, non. Quand on tourne dans l'autre sens, évidemment, ici, comme je tourne dans l'autre sens, je vais avoir un signe négatif, puisque je suis à l'envers. Donc au lieu de dire je suis à 270 degrés, je suis à moins 90 degrés. Et ici, bon, je suis à 180 ou moins 180, c'est pareil. Autre manière de parler, je sais que comme mon rayon ça fait 1, le rayon de mon cercle fait 1, la circonférence de mon cercle, ça va donc faire 2 pi. Hein, puisque je rappelle quand même que la circonférence d'un cercle, c'est le diamètre multiplié par pi. Donc 3, 14, 115, 9, etc. D'ailleurs, vous avez le nombre pi sur votre calculette, c'est vachement sympa, ça vous évite de vous souvenir de ce que ça veut dire pi. Et puis en plus, ça va très loin, enfin, il y a 8 chiffres derrière la virgule, ce qu'on n'a pas dans la tête. Donc, pour revenir là, on a 0, mais ici, lorsque j'ai fait un demi-tour, j'ai donc pi. J'ai fait le chemin. Si je dis mon rayon est égal à 1, ça veut dire que mon point, si je prends la distance parcourue sur l'ensemble du cercle là, ici, lorsque j'arrive à la moitié du chemin, donc à 180 degrés, j'ai parcouru la distance de pi. Hein, puisque lorsque j'ai fait le tour complet, je suis à 2 pi. Je suis à 2 pi lorsque j'ai fait le tour complet. Ce qui veut dire que lorsque je suis à 90 degrés, j'ai fait pi sur 2. Pi divisé par 2. Et ici, j'ai 3 pi sur 2, ou moins pi sur 2. Comme on veut. Il y a toutes les possibilités. Selon le sens où ça tourne. Bon. Maintenant, je vais faire tourner un petit point. J'ai un petit point ici. Et je vais le faire tourner, ce point, sur mon cercle trigonométrique. Et je le fais tourner, évidemment, régulièrement, tant qu'à faire, puisqu'on a dit qu'on était une fonction périodique. Ça veut dire que mon point, il bouge de la même manière et à une certaine vitesse. Et cette vitesse, elle est... C'est-à-dire qu'il fait pas par à-coup là-dessus, hein. Il le fait bien régulièrement, de vitesse régulière. Hein, parce que sinon, s'il fait ça par à-coup, ça devient une fonction, c'est une double fonction, quoi. Alors. Alors, nous avons ici donc une... Les hauteurs là que j'ai mis au maximum ici et ici, d'accord. Alors donc c'est la fonction mathématique. On va maintenant regarder en fonction du temps la hauteur que va prendre le point. Donc c'est typiquement ce qui se passe quand on fait tourner un moteur. C'est typiquement, et on va voir le mouvement de la bielle par rapport au vilebrequin, quoi. Hein, quand on revient à de la mécanique bête et méchante, et donc effectivement ça se calcule par rapport à la fréquence. La fréquence étant le nombre de fois que mon point va faire le tour du cercle. Hein, c'est ça la fréquence. Donc, lorsque je suis à mon point ici, au début, j'ai mon point qui est ici, et donc le point va monter jusque là. Alors vous voyez qu'au début ça monte très rapidement, puis après ça commence à ralentir là, lorsqu'on arrive au 90 degrés. Lorsqu'on monte en haut au 90 degrés, eh bien le mouvement est quasiment à plat, et après va commencer à descendre. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'au départ ça va monter très fort, et puis après ça va décliner comme ça, et puis après ça va redescendre quand on va aller sur le 180 degrés. D'accord. Et puis après évidemment ça va le mouvement se continue et ça va descendre comme ça, cela et remonter là comme ça. Donc ça, c'est une fonction sinusoïdale. Alors, fonction sinusoïdale, ça veut pas dire deux arcs de cercle. C'est-à-dire que c'est pas un arc de cercle comme ça, puis un arc de cercle comme ça. Hein. C'est pas ça. Une fonction sinusoïdale, parce que là, on remarque que là, c'est un mouvement qui est beaucoup plus régulier. Voilà. Et là, c'est pas ça, mais là on voit bien que là le mouvement il tourne et après il retourne dans l'autre sens. Il n'est pas régulier. alors que celui-là est beaucoup plus régulier. Là, ça, la pente continue à descendre. Voilà, donc, bon. Alors, je vous rassure, sur le Minitel, c'est très mal dessiné. À l'examen, c'est très mal dessiné. C'est pour ça que c'est dessiné un peu de cette manière un peu bizarre, que j'ai dessiné pour les gens qui sont sur la webcam, que j'ai dessiné tout en haut, le petit schéma que j'ai mis tout en haut, qui en fait ne représente pas du tout la fonction sinusoïdale. Hein. D'ailleurs, la mienne, celle que j'ai dessinée, elle est pas géniale. Celle qui est bien, c'est celle qui est sur le cours, parce que ça a été dessiné avec un outil de dessin et j'ai demandé une fonction sinusoïdale. Donc, même si elle n'est pas parfaite, ça ressemble plus à une sinusoïde que ce que j'ai dessiné au tableau. D'accord ? À main levée, c'est pas évident. Hein. Hein. Donc, voilà comment... Alors, remarquez bien que de ce fait, le point, lui... tourne bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord ? Et si on tournait dans l'autre sens, eh bien en fait la fonction serait exactement la même, sauf qu'elle serait retournée. Hein ? Puisque si je commence par le bas, eh bien en fait, je vais la dessiner en pointillé pour les... Voilà, donc là je vais la dessiner en pointillé. Si je le fais tourner mon cercle à l'envers, ça va donner cette fonction-là. Ce qui est strictement la même, hein. Sauf qu'elle est inversée. Mais bon, on s'en fout, hein. Ouais, bon, enfin bon, c'est pas grave. Elle est juste inversée. Donc, voilà où nous... Pour les... Ces histoires de sinus. Alors, maintenant, on va parler deux choses un petit peu de définition. Alors, premièrement, en ce qui concerne la fréquence. La fréquence, c'est donc le nombre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le nombre de fois que mon petit point là qui tourne sur mon cercle, voilà, c'est le nombre de fois qui fait le tour en une seconde. À chaque fois, il faut bien se rappeler en tout ce qui est en physique, l'unité de temps, c'est la seconde. Il n'y a pas d'autre unité de temps que la seconde. Ah. Le kilomètre heure, par exemple, c'est une connerie. On devrait parler en mètres secondes. Alors c'est vrai que bon, en voiture, c'est quand même plus facile de se donner une idée en kilomètre heure qu'en mètres secondes. Mais en physique, on calcule, les vitesses se calculent en mètres secondes. D'accord ? Donc, voilà. Alors, effectivement, Phil nous dit que la fonction que j'ai mis en pointillé, là, effectivement, elle est déphasée. C'est-à-dire qu'elle est déphasée de 180 degrés. En fait, c'est comme si j'avais commencé ma fonction, non pas au 0, mais au 180. C'est-à-dire que le fait de la faire tourner dans l'autre sens... Ça revient à la commencer au 180 et qu'elle tourne dans le bon sens. Ça revient au même. Mais bon, là, ça, on commence un petit peu à compliquer un peu les choses. Mais bon, c'est bien de le préciser. Ça permet comme ça de mieux comprendre cette fonction mathématique. Donc ça, c'est concernant la fréquence. Alors, de ce fait, comme la fréquence, c'est le nombre de fois que le point fait le tour en une seconde, de ce fait, une période va durer l'inverse de la fréquence. C'est-à-dire que si j'ai une fréquence de 50 Hz, par exemple, pour le courant alternatif, monsieur EDF vous fournit du 50 Hz, ça veut dire que une période, c'est-à-dire que pendant le temps que va durer le tour de mon point, ça sera un cinquantième de seconde. Donc ça va durer 20 millisecondes. D'accord ? Donc au bout de 20 millisecondes, eh bien le courant va reprendre sa forme de 20 millisecondes avant. Va reprendre la même forme. Ce qui veut dire aussi, vous remarquez que dans ma représentation des sinus, il y a une partie qu'on appelle positive qui est là, qui est au-dessus de la ligne du temps, et une partie négative qui est en dessous de la ligne du temps. La partie qui est positive, ça s'appelle une alternance positive, et la partie négative, ça s'appelle l'alternance négative. Donc, une période est composée pour les sinus, la période pour les sinus uniquement, hein, parce que pour les autres, il peut y avoir des alternances positives ou négatives, mais c'est pas aussi marqué que pour le sinus. Voilà, le fait qu'il est régulier. Et donc, dans une fréquence, dans une période sinusoïdale, on a deux morceaux, une alternance positive, quand c'est positif, et une alternance négative, quand c'est négatif. Et évidemment, on voit bien que l'alternance positive est strictement égale, hein, c'est la copie, sauf qu'elle est, elle est décalée dans le temps, et elle est inversée. Mais sinon, c'est exactement la même forme de signal avant et après. D'accord ? Donc, ça, c'est... Bon, on reviendra après sur cette notion d'alternance, quand on fera les alimentations, donc les transformateurs. Et les diodes, enfin tout ça. On reviendra dessus. La fréquence, elle se calcule en hertz. La fréquence, c'est donc le nombre de fois que ça change en une seconde. Et ça se calcule en hertz. L'hertz est la valeur, l'unité de mesure d'une fréquence. Donc quand on dit la fréquence est de 1 kHz, ça veut dire que mon point fait le tour en, enfin fait 1000 fois le tour en une seconde. Et c'est 1 kHz, hein. N'oubliez pas que les ondes radio commencent grosso modo autour de 100 kHz. On commence à les grandes ondes. Ouais. 100 000 fois le tour, ouais. C'est les grandes ondes, hein. Et plus on monte en fréquence, plus la télévision, c'est du 450 mégas par là. Donc 450 millions de fois. Le tour en une seconde. Oui. Ouais. Il change. 450 millions de fois. Enfin, il change de sens, non, le double du coup. Puisque quand on a fait le tour, on a fait une fois une alternance positive, c'est-à-dire dans un sens et puis après dans l'autre. Oui. Un aller-retour. Donc il a changé déjà deux fois de sens. Hein? Puisqu'il, quand il a fait le tour. Ouais. Et encore la. Les téléphones portables, ça va encore plus haut en fréquence, hein. Ouais, ouais. Donc bon, quand on se et on là et c'est là où on a du mal à imaginer la vitesse où ça va. C'est là où on a du mal à imaginer la vitesse où ça va. Ah, encore une grosse coupure de 30 secondes. Oh là, bah attends, ouais. Il y a mes affreux Jojo qui sont sur Google Earth. Alors là, je suis foutu là. S'il vous plaît, Google Earth là, please. Il y a plus de son. Ouais. Hein? Ouais. Je m'en occupe après. Bah attends, mais. Donc, nous continuons. On va faire un petit blanc sur 144. Voilà, et il continue, les affreux Jojo. On va aller. Eh oh, ça continue. Eh, j'ai plus de son. Oui. Ah ouais. Donc F6 KGL opéré par F6 GPX, donc après le petit blanc. Donc visiblement là il y a des affreux Jojo qui cherchent je sais pas quoi. Ils sont en Chine. Ah bah là. Bon alors voilà, alors maintenant ils font le tour du monde non plus par radio mais par Google Earth, alors ça devient difficile de trafiquer. Bon, continuons. Le autre notion importante, c'est la pulsation. La pulsation, c'est la vitesse de déplacement de mon petit point. Parce qu'on va voir par la suite que ça va avoir une incidence, et en particulier, ça va nous permettre de récupérer une information pour la traiter, pour informer dans nos fonctions mathématiques cette notion de fréquence. Et donc là, on va avoir cette notion de pulsation, et la pulsation, c'est quoi ? C'est la vitesse à laquelle se déplace le point. Plus il se déplace vite le point, plus la fréquence est importante. Bah oui. Et ça, cette notion de pulsation, c'est une... Alors ça, c'est une des premières formules à apprendre. La première formule, c'est... Alors la pulsation, elle s'écrit oméga, minuscule. Oméga minuscule, ça ressemble à un W. Hein? Alors le oméga majuscule, c'est ce qui vous sert à faire le signe ohm, la résistance. Et le oméga minuscule, alors à l'examen, le... il n'y a pas marqué oméga comme ça en lettres, c'est pas la lettre grecque, c'est la lettre W qu'on vous met. Non, parce que c'est W minuscule. Ouais, ils le mettent W minuscule. Et entre parenthèses, ils mettent oméga. Bah, W... Non, bah, il est plus petit en taille. Oh bah si, tu vois, un W majuscule et un W minuscule, c'est plus petit en taille. Pas bon. Oui, sur un Minitel, ouais, c'est pas évident. Donc... Alors... Donc mon oméga, qui est donc ma fameuse lettre grecque, est égal à 2 fois pi fois f. Et f évidemment en hertz. C'est-à-dire que je prends ma vitesse, c'est en fait ma vitesse, cette pulsation, c'est la distance que va pouvoir parcouru mon petit point pendant une seconde. Hein, puisque 2 fois pi, c'est le tour. Donc 2 fois pi fois f, c'est donc la distance sur mon cercle qu'aura parcouru mon petit point. Hein, c'est-à-dire que mon point il tourne, et puis je calcule la distance qu'il a parcouru. Sachant que le rayon, par définition, c'est 1. Alors, un quoi, on s'en fout. C'est un. Le rayon, c'est ça. C'est le rayon d'un cercle, c'est la distance entre le centre et la circonférence. Ah oui? Oui, oui. Bah non, n'importe où. C'est le principe du cercle, hein. Bah voilà. Voilà, alors voilà, attends. Alors, faut parler au cuistot, on part de gâteau. Et aux mécaniciens, en piston et en bielle. Ouais. Voilà. D'accord? Donc là, ma pulsation, elle se calcule, elle, en radians par seconde. Pourquoi ? Parce que quand on parle là de longueur, eh bien l'unité ce ne sont pas les degrés, ce sont les radians. D'ailleurs, vous avez ça sur vos calculettes, vous pouvez calculer en grades, en radians ou en degrés. Alors, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de vous servir de ça. Alors, tout le monde repose sa calculette, tout le monde est content. Bah oui, oui, oui. Et puis, de bien regarder comment elle fonctionne. Ouais, ouais, il faut que tu apprennes. Voilà, c'est les fonctions plus compliquées. Mais t'as pas besoin de tout. Oui.
Le signe pi.
Oui.
C'est vraiment tout très tel qu'il est désigné.
Ah oui. Ouais. 22 septième, c'est ouais, alors là c'est très approximatif, hein. Bon, bon. Attends. Hein. Eh, vaut mieux utiliser le pi, vaut mieux. Alors là, attends, parce que le pi, le vrai pi, c'est celui qui est marqué là sur le cours, hein. C'est ce bidule là. Et ça, c'est le pi, je dirais mon pi à moi, ça. Hein. D'accord ? Hein, on l'a le pi là sur le cours. Hein. Alors, Christian, alors si j'ai bien compris, la fréquence, le temps pour faire un tour multiplié par Hertz et la pulsation et la vitesse du point. Exactement. Alors, la pulsation, c'est la vitesse du point. Donc, en fait, c'est le nom, c'est la distance qu'a parcouru le point pendant une seconde. Donc, c'est bien la vitesse du point. Et la fréquence, c'est le temps. Enfin, la fréquence, c'est le nombre de fois exactement que le point a fait le tour en une seconde. Hein, c'est ça la fréquence. Le temps et le temps que dure une période, eh ben, c'est l'inverse de la fréquence. C'est normal. Si ma fréquence, elle fait par exemple 1 kHz, 1000 Hz, mon point fait le tour en une milliseconde, en 1000 fois moins. 1 divisé par 1000, puisque. Et si c'est 2000, et si la fréquence est 2 kHz, eh bien, c'est le temps que va durer la période, c'est 1 divisé par 2000. Évidemment, on se retrouve toujours avec des temps très courts, de l'ordre de la milliseconde ou de la microseconde. Donc, des durées qu'on n'a pas, nous, trop l'habitude de. Qu'on maîtrise pas. Hein, la milliseconde. Quant à la microseconde, là, n'en parlons même pas. Hein. Déjà, la seconde est courte, pas pour tous les sportifs. Hein. Ça dépend ce que... Hein. Mais c'est vrai que la milliseconde, là, c'est... Les sportifs, ils sont au centième de seconde, mais ils sont pas au millième de seconde. Hein. Donc, nous, on est mieux que les sportifs. Hein?
le signal qui t'a marqué là avant 3, c'est Hertz, entre parenthèses.
Ouais, ah oui, parce que ma fréquence est en Hertz. À chaque fois quand je rajoute toujours l'unité dans laquelle je parle. Bon, ça j'ai oublié de le. Alors c'est HZ. HZ, H majuscule, Z minuscule. Si bien que quand tu veux écrire kilohertz, par exemple, c'est là que ça se complique. Kilo, c'est un petit k, k minuscule. Donc kilohertz, c'est petit k, H majuscule, Z minuscule. Et mégahertz, méga, c'est un M majuscule. Donc c'est M majuscule, H majuscule, Z minuscule. Ouais, sans faire attention à savoir ce que ça voulait dire. Et sinon, après, tu as gigahertz, donc le G majuscule. En fait, tout ce qui est supérieur, enfin, ce qu'on appelle des multiples, donc tout ce qui augmente, c'est une lettre majuscule. sauf Kilo. L'exception, c'est Kilo, qui reste le K minuscule. Mais sinon, c'est toujours des lettres majuscules. Et tout ce qui est plus petit, donc des sous-multiples, ce sont des lettres minuscules. Hein? Donc l'exception, c'est le Kilo, qui reste avec un petit un K minuscule. Alors pourquoi, je sais pas, hein, vous pouvez me demander là. Ben oui, parce que le K majuscule, normalement, c'est le K du Kelvin. Kelvin, c'est les degrés, la température. Peut-être, hein. Parce que normalement, degré Kelvin, c'est le degré, le petit rond. Et après, K, pour le différencier du Celsius, qui est la température qu'on utilise. Les Américains utilisant le Fahrenheit. Quand il fait 80 degrés aux États-Unis, il fait pas très chaud. Hein. Oui, oui. Eux, ils ont leur propre. Ouais, ils ont les galons. Ouais. Non, non. Ah non, eux, ils sont pas passés au système métrique. Hein. Enfin, en fait, ils sont passés au système métrique pour tout ce qui est, par exemple, la NASA. Elle est passée en système métrique. Parce que quand ils font des calculs sur les fusées, ils vont pas s'emmerder avec leur pouce, leur machin. Hein. Et bon, ils s'emmerdent. Parce que toutes les fonctions, bah, les radios, c'est pareil. Une longueur d'onde, ils vont pas la mettre en pied. C'est tellement plus simple en. Tout le monde parle de la même chose. Oui, mais les Anglais, c'est pareil. Oui, oui, parce que les Américains ont suivi le système anglais. Mais mis à part pour tout le système scientifique, qui est au système métrique, sinon dans la vie courante, ils ont gardé leur système, qui est issu du système anglais. Oh, oui, ça c'est pour emmerder le monde, exactement. Bon, enfin bon, on va peut-être pas trop le dire, parce qu'il y a peut-être des Anglais qui nous écoutent sur Internet. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a comme question à l'examen? Deux styles de questions. Premièrement, enfin les exemples. Quelle est la pulsation d'un signal dont la fréquence est de 10 MHz, donc 10 millions de Hertz? La pulsation, c'est donc 2 fois pi fois f, donc 6,28 multiplié par 10 millions. Hein? Donc ça fait 62 800 000. Et alors l'unité, c'est ce qu'on était arrivé tout à l'heure, c'est que en fait quand on a fait le tour là, on a fait ce qu'on appelle 2 pi radians. Ça s'appelle 2 pi radians. Et donc là ma pulsation, ça va être un nombre de radians par seconde. Puisque ma fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. Donc multiplié par 2 pi, puisque c'est mon tour. Donc ça s'appelle des radians par seconde. Donc si je fais 2 multiplié par pi multiplié par f, ça va me donner des radians par seconde. D'accord? Et c'est pas les radians des antennes. Hein. C'est pas. Ça s'écrit pas pareil. Non, c'est pas les radians ou les radians des radiateurs. Ça s'écrit pas pareil, il n'y a pas de T au bout. Les radians des antennes, ça s'écrit ANT à la fin. Alors que là, il n'y a pas de T. Deuxième type de question. Quelle est la fréquence 1 kHz d'un signal sinusoïdal composé de deux alternances et durant 15 microsecondes? Alors, c'est là qu'on va commencer à... j'efface mon schéma. Si, on va comprendre. Quand on fait le schéma, on comprend mieux. Alors, voilà, le problème, c'est compter les périodes. C'est pas trop compter les périodes, c'est compter les périodes sur le Minitel. Oui. Bah parce que sur le Minitel, c'est pas évident. de représenter et donc de compter. Alors, j'ai un signal sinusoïdal, donc là, je fais ma représentation en fonction du temps. Donc là, j'ai 5 alternances. Alors j'en ai une positive, une négative, une positive, une négative, une positive. Voilà. Donc plus, moins, plus, moins, plus. Là j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Tout ça, cette longueur-là, ce temps-là, ça fait 15 microsecondes. Donc là, la caméra, la webcam, voilà, elle a quasiment tout rafraîchi. Donc là, on voit mon signal sinusoïdal très mal dessiné, j'en conviens. Hein? Bon, enfin bon, vous avez compris le... vous avez compris quand même de quoi il s'agissait. Et donc là, mes 5 alternances que j'ai dessinées durent 15 microsecondes. Ce qui veut dire que... Bah oui. Ça aurait pu être aussi l'inverse, c'est-à-dire 2 positives et 3 négatives. Hein. Ça marchait aussi. Hein. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que j'ai 5 alternances. Hein. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la fréquence. Parce que c'est ça la, question, c'est la fréquence. La fréquence, c'est donc... Voilà. Donc en fait, moi, une période, c'est tout ça. Une période, c'est... C'est ce temps-là qui m'intéresse. C'est-à-dire le temps que va durer une période positive plus une période... une alternante positive plus une alternante négative. Donc si tout ça, ça dure 15 microsecondes, si les 5 alternances durent 5 microsecondes, deux alternances vont durer combien? À 6. 6 microsecondes. Hein, puisque c'est 3 microsecondes par alternance. Donc deux alternances pour avoir une période, ça me fait 6 microsecondes. Ça me dure 15 microsecondes. Là, pour 5, ça m'en dure 15. Je divise par 5 pour avoir le temps d'une alternance. Ça me donne 3 microsecondes. Et puis, ouais. Et puis, comme j'ai dans ma période, j'ai 2 alternances, ben ça me dure 6 microsecondes. Ah ouais, ben ça... Sur l'exercice, c'est pas évident. Ah bah oui, bah ça... Oui, on s'en mêle. On s'en mêle. Bon. Donc ça, on a donc 6 microsecondes. Et maintenant, bah 6 microsecondes, il faut déterminer... Oui, d'ailleurs, il y a une connerie dans mon cours, là. Ça va pas du tout. Oui. J'ai écrit une connerie. Eh ben, j'ai écrit 2,5. 5 alternances forment 2,5. Ah non. Oui, enfin bon, j'ai été un peu... 5 alternances forment 2,5 périodes. Une période dure donc... Oui, ça revient au même. Ce que j'ai écrit, j'ai été un peu plus tordu, c'est-à-dire que j'ai dit que 5 alternances, c'était égal à 2,5 périodes. La moitié. Donc, mais... Bah oui, ouais. Ouais. Oui, une négative. Donc, en fait, là, j'ai pris le raisonnement en disant que j'en ai 2,5. Et donc, je divise 15 par 2,5 pour avoir la durée d'une période. Et donc, 15 divisé par 2,5, ça me donne encore 6. Heureusement. Donc, j'ai pas dit de conneries. Et donc, maintenant que j'ai mes 6 microsecondes, eh bien, je peux déterminer ma fréquence. Donc, je sais que ça fait 6 microsecondes, donc sur ma calculette, je fais 1 divisé par Alors la fréquence F est égale à 1 divisé par 0,000006. Hein? 6 microsecondes. Et alors ceux qui ont la chance d'avoir une super calculette, ils font 1 divisé par 6 puissance moins 6, puisque 10 puissance moins 6 c'est micro, et ils ont la réponse tout de suite. Et ça doit donner normalement 166 kHz ou 166 666 Hz. D'accord ? Bah oui, parce que qu'est-ce que j'ai demandé en fréquence ? Kilohertz. D'accord ? Donc ça, c'est faut essayer à la calculette, voir ce que ça donne. Ouais. Bah oui, 6 microsecondes. Millisecondes. Là, tout ça, c'est les millisecondes, et là, c'est les microsecondes. Bah 0 seconde. Donc si ici là les trois premiers zéros c'est pour les milli et après c'est pour les micros. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ah non, mais faut le faire à la machine. C'est à la machine qu'il faut le faire. C'est pour ça qu'il faut savoir se servir d'une calculette. Hein. On peut pas le faire comme ça au hasard. Hein. Ouais, Walter, un sixième, ça fait 0,166. Sauf que un sixième, tu te retrouves en microsecondes. Enfin, si tu fais un sixième, t'es en microsecondes et donc ta réponse donne des mégahertz. Alors que si tu pars en hertz, eh bien, tu es obligé de partir de la seconde. Hein, mais donc, après faut convertir exactement. Mais après c'est chacun qui fait comme il veut, sauf que je signale quand même que la réponse était demandée en kilohertz. Donc transformer du mégahertz puis après du kilohertz, etc., on risque quand même de se planter. Il y a tous les risques de se planter. Hein. Enfin bon, maintenant chacun fait comme il le sent, hein, évidemment. Si vous préférez une méthode plutôt qu'une autre, si vous sentez mieux une méthode plutôt qu'une autre, faut surtout pas en changer. Hein. Faut faire la méthode qui vous semble le plus logique. Donc maintenant qu'on a vu notre histoire de cercle trigonométrique, on va revenir maintenant à notre loi d'Ohm. Hein, on va revenir à nos premières amours. Hein? Alors, nous sommes à la page 45 maintenant. Là, je suppose qu'elle est. Voilà. Alors, j'efface le tableau là. Et nous en arrivons maintenant à. Puisqu'on a vu que les courants alternatifs, le problème c'est que ça change tout le temps. Donc, mon histoire de la semaine dernière, enfin des précédents cours sur ma loi d'Ohm, bah du coup elle va plus fonctionner. Puisque ça change tout le temps. Donc, je peux plus appliquer ma loi d'Ohm telle quelle. Donc, alors, on revient. Ma loi d'Ohm, alors, heureusement, il y a des mathématiciens qui ont réfléchi à la question et qui se sont dit, qu'à cela ne tienne. Alors ça n'est valable que pour les fonctions sinus. Quand on est dans une fonction carrée, triangulaire, d'onde si, tout ce qu'on veut, tout ce que je vais vous dire, ça ne fonctionne pas. Il y a d'autres systèmes pour retrouver la loi d'Ohm. Mais en l'occurrence, pas celui-là. Ça ne fonctionne que pour les fonctions sinus. Et uniquement pour les fonctions sinus. On a pas. Enfin, souvent, on oublie de le dire et redire et re-répéter. Et en particulier quand on regarde les tensions avec un voltmètre. Parce que le voltmètre, il indique une tension efficace en alternatif. Le voltmètre, c'est très bien déterminer la tension de monsieur EDF, qui est l'alternative. Et monsieur EDF, heureusement, nous envoie une tension qui est sinusoïdale. Mais si elle n'est plus sinusoïdale, pour des raisons diverses et variées, eh bien, on peut plus lire la tension directement sur le multimètre. Elle est fausse. Elle n'est pas complètement fausse. Mais elle n'est pas juste. Hein? Voilà. En plus, ça c'est la lecture, c'est-à-dire que le système de lecture n'est pas, enfin les composants qui y a à l'intérieur ne sont pas super fiables, c'est-à-dire que selon par exemple la température, ou selon le degré d'hygrométrie ou tout ce qu'on veut, ou la faiblesse de la pile, tout ça va faire que ta mesure, elle est valable à plus ou moins. Et puis ça dépend aussi du constructeur, c'est-à-dire que le constructeur, il dit que c'est fiable, il a fait des tests et sur l'ensemble de sa production, c'est à peu près ça. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout, au bout d'un moment, on se dit quand on dit 218,5 volts, ça peut être très bien 217 ou 220. Hein. Voilà. Donc nous revenons à notre cercle, à mon cercle trigonométrique. Et en fait, on s'aperçoit que pour une certaine valeur qui correspond à un angle de 45 degrés, eh bien, on peut appliquer la loi d'Ohm. C'est-à-dire que lorsque j'ai un courant alternatif qui fait ça, qui fait une tension donc alternative, eh bien, on peut appliquer la loi d'Ohm en considérant que mon point reste ici à 45 degrés. Voilà. Donc cette tension qui est dessinée là à partir du 45 degrés, eh bien c'est ce qu'on appelle la tension efficace. Efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec cette tension, on peut appliquer la loi d'Ohm et la loi de Joule. Alors quand je dis tension, ça marche aussi pour l'intensité, hein. C'est tension et intensité. Donc une fois qu'on a défini. Donc en fait, on va avoir défini une tension, ce que l'on appelle ici une tension crête. Ici, c'est la tension maximum, max, tension max, pour dire maximum, ou crête. C'est la tension maximum ou la tension crête. Ici, c'est la tension efficace, que je vais appeler E2F. Efficace. Et la tension, une troisième notion qui est importante, c'est ici la tension crête à crête. Crête à crête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension crête, c'est par rapport au 0 volt qui est là, hein, qui est au milieu. Puisque j'ai une tension, une alternance positive, une alternance négative. Donc mon 0 volt, c'est ce qui est au milieu. Et la tension crête, c'est la tension entre le maximum et le 0 volt là. Et ma tension crête à crête, c'est l'ensemble. C'est le CAC, crête à crête. Ça veut dire que la tension, ce qui veut dire que, alors ça, attention. Voilà. Ce qui veut dire à l'examen, la question piège, c'est on donne une tension crête à crête et non pas crête. Mais crête à crête, et on demande la tension efficace. Donc crête à crête, il faut commencer déjà par divisé par deux pour avoir la tension crête. Et après, alors, il y a un rapport mathématique, évidemment, entre ces deux valeurs. Alors, quand je veux passer de efficace à crête, pardon, de efficace à crête, il faut que je multiplie par 1,414. Facile à se souvenir, 14. 1,414. Oui, si tu as la tension efficace, tu prends ton voltmètre. Ton voltmètre, il te dit la tension efficace. Tu regardes, il y a marqué dessus 220 volts. Tu multiplies par 1,414 et tu as la valeur crête. C'est-à-dire que la valeur maximum à un moment de la sinusoïde. D'accord ? Donc quand on dit que c'est du 220, ça veut dire qu'il y a plus que du 220. D'accord ? Ouais. Ouais. Ah ouais, puis après, si tu veux, imagine maintenant que tu as la tension maximum, parce que par un autre système, tu t'es débrouillé d'avoir la tension maximum. Pour avoir la tension efficace, pour redescendre ici à la tension efficace, il faut multiplier par 0,707 ou diviser par 1,414. Ce qui revient au même. Hein? Mais vaut mieux dire je multiplie par 0,707, c'est plus simple. Hein? Voilà, je supprime celui-là. Ben si, tu la divises. Tu la divises puisque tu multiplies par un chiffre inférieur à 1. Donc elle est plus petite. Tu la divises. Donc quand tu vois que quand tu as une tension crête pour obtenir une tension efficace, donc plus petite, tu multiplies par 0,707 et tu remarqueras que c'est la moitié. Ouais. Et inversement, quand tu as la tension efficace pour obtenir la tension crête, tu multiplies par 1,414. D'accord ? Alors, dernière chose, une tension, mais qui, dans le cas des valeurs des tensions sinusoïdales, ne veut rien dire, c'est la tension moyenne. La tension moyenne, comme son nom l'indique, dans ce cas-là, alors il faudrait continuer la sinusoïde comme ça à l'infini, la tension moyenne, bah, c'est 0 volt. Tension moyenne, ça veut dire que c'est tu fais la moyenne de toutes tes tensions. Donc comme tu en as autant au-dessus qu'il y en a en-dessous, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, les alternances positives et les alternances négatives sont égales, donc la tension moyenne, bah, c'est 0 volt. Dans ce cas-là. Ah. Donc c'est cette notion de tension moyenne pour une fonction sinusoïdale, c'est 0 volt. Il n'y a pas grand intérêt à savoir ça. Voilà. Alors, on peut faire des exemples. Alors oui, ce qui est important, c'est que systématiquement, quand on utilise la loi d'Ohm, il faut tout transformer en valeur efficace. Tout. Systématiquement. Pour pouvoir se servir de la loi d'Ohm, il faut que ce soit en valeur efficace. Pas chercher à comprendre. Et si on a une valeur, évidemment, maximum, ou crête à crête, il faut la transformer en valeur efficace. Quitte à ce que après on la retransforme en valeur maximum, parce que la question d'examen concerne il demande la valeur maximum. Mais pour utiliser la loi d'Ohm, il faut absolument passer par les valeurs efficaces. Sinon, ça marche pas. Donc j'ai mis deux exemples. Alors, quand on avait vu quand on avait vu l'intensité, lors des premiers chapitres, on avait dit que l'intensité, c'était une agitation d'électrons ordonnée. C'est-à-dire que les électrons, ils bougent, mais ils bougent tout dans le même sens. Et bien là, c'est la même chose. Les électrons, ils bougent, mais de manière ordonnée, et ils bougent toujours dans le même sens, mais en... Voilà, et ça bouge un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les électrons, ils n'ont pas le temps de bouger. Donc, ce qui bouge, en fait, c'est le flux qui fait bouger les électrons. Les électrons, en eux-mêmes, ne bougent pas. Ils restent au même endroit. Et c'est typiquement, ça, on a du mal à comprendre ce système-là, mais c'est typiquement... Quand tu as une feuille qui est sur de l'eau, tu vois des vagues qui se baladent. Eh bien, la vague, elle bouge, mais l'eau, elle bouge pas, et la feuille, elle bouge pas non plus. Mais il y a quand même un courant. Et là, c'est exactement pareil. Parce qu'en fait, c'est l'onde qui se propage. Mais la masse en elle-même ne bouge pas, l'eau ne bouge pas, et la feuille non plus. Hein, c'est exactement pareil. Non. Ben, le flux, c'est le courant. C'est le courant, c'est... Oui, mais les électrons, ils bougent pas. Voilà, ils sont comme la feuille, ils bougent pas. Ils voient le courant qui passe d'un côté, qui passe de l'autre, mais ils peuvent pas bouger. Attends, la vitesse où ça va, quand on est en mégahertz, 1 million de fois par seconde, l'électron, il se dit bon, j'irai dans une direction quand on me dira vers quelle direction. ça va un peu trop vite, hein. Ils sont perdus, bah, comme nous on le serait, hein. Hein, quand on... Si ton chef il change d'avis 1 million de fois par seconde, tu vas vite te lasser, hein. Il va péter un câble. Ah, donc en fait c'est un mouvement où il n'y a pas de déplacement. C'est un peu difficile à... Mais en fait quand on regarde la nature, ça se passe comme ça. Oui, mais ça se passe de la même manière. Alors, c'est vrai que pour les électrons, c'est un peu plus difficile parce qu'on a du mal à imaginer des électrons qui bougent dans un fil électrique. C'est plus difficile, mais on peut se rapprocher très bien de tout ce qui est en fluide, puisque l'électricité est considérée comme un fluide. Ah, c'est considéré. Enfin, ça. Et c'est pour ça qu'on peut faire des notions, enfin des rapprochements avec la pression ou les débits. Parce que ça marche pareil que les fluides. Alors pas exactement, mais disons qu'on peut se raccrocher à quelque chose de plus palpable qu'on voit un peu mieux. C'est plus imagé que des électrons où c'est tout petit, on les voit pas. Ça se balade dans du fil qui est dur. Ah bah si. Bah si. Dans les centres, dans les accélérateurs à particules. Attends, on va finir le cours et puis on y met. Hein, un élect... C'est petit, ouais. Et c'est rond, ouais. Non, c'est pas de couleur. On sait pas, il y a pas de couleur. Attends, la couleur, c'est... Ouais, alors, vas-y. Un atome crochu. Alors un noyau d'hydrogène. Alors donc il y a un proton, un proton et un neutron. Ouais. Et il y a un électron qui tourne autour. À une balle de ping-pong. Ouais. Bon. Alors donc le noyau est égal à une tête d'épingle. Ouais. Ouais. Donc c'est donc l'électron se trouve à 100 mètres. Oui, bah moi je prenais c'est pareil, moi je prenais une balle de ping-pong. Ouais, bah et c'était la lune. Non, c'était une balle de tennis, c'est une balle de tennis par rapport à la lune. Enfin bon, c'était un truc et en fait ouais. Une tête d'épingle, donc la tête donc il y a deux particules. Non, la tête d'épingle c'est ça. C'est voilà. Et donc ton électron, un seul électron qui tourne autour à 100 mètres et de rayon. Voilà, voilà, et ça c'est l'hydrogène. Donc en fait c'est essentiellement du vide. Ah ouais. On va faire les exercices vite fait. On va faire les exercices vite fait et puis on va s'arrêter là. Premier exemple. Je vais effacer mon petit schéma et mettre mes deux. Alors, j'ai une résistance de 50 ohms. Une intensité qui fait. Alors, vous remarquez quand même que mon intensité, je lui mets un sens, malgré qu'elle soit alternative. Normalement, ça n'aurait deux sens. Mais en fait, elle a un sens. Parce que, rappelez-vous, on avait fait la loi de Kirchhoff, la loi des nœuds et des mailles. Eh bien, l'intensité va toujours du générateur vers la charge. Ça ne change pas. Le générateur, maintenant, il est alternatif. Et ma charge, eh ben, elle absorbe de l'alternatif. Donc, mon intensité, c'est-à-dire que mon flux de courant, il va toujours de ma charge qui se trouverait théoriquement dans mon schéma là à gauche, vers la charge qui se trouve à droite. D'accord ? Donc, ça ne change pas. Intensité égale 1 ampère max. Et là, ma tension, évidemment, ça marche toujours de la même manière. Hein. U efficace. Même commentaire pour la flèche de ma tension. La flèche m'indique toujours où se trouve mon générateur. D'accord ? Et mon générateur, dans ce cas-là, il est alternatif, mais on s'en fout. Ma tension, la flèche de ma tension indique là où se trouve le générateur. Bah, ce qui me génère ma tension. Ah non, le générateur, c'est monsieur EDF, t'as une pile. EDF. Une pile ? C'est un générateur. Un moteur, c'est une charge. Ça pompe. Ça pompe de l'énergie. Ah non, c'est un... Oui, oui. Ah oui, un groupe électrogène. Ouais, oh, bah non, t'es... Compliqué, là. Donc, là, je vais commencer par transformer mon intensité maximum en intensité efficace. Donc, est égal à 0,707 ampères efficace. D'accord ? Ah, 1 multiplié par 0,707, c'est pas la peine de sortir la calculette. Oh. C'est pas normal. Donc, après U est égal à R multiplié par I est égal à 50 multiplié par 0,707. Et là, ça fait quoi ? Ça fait 35, ouais. 35,35 volts, mais enfin bon, 35 volts, quoi. 35 volts. et je suis bien en volt efficace. Puisque c'est ce qu'on me demandait. Non mais j'ai appliqué ma loi d'Ohm, donc je me retrouve en volt efficace. Quoi ? Bah ça fait 0,707. Bah ça fait 0,707. Ça change pas. Alors, deuxième question, c'est à peu près la même chose, sauf que là on a dit que c'était... alors, je change les valeurs du problème. Alors, c'est quoi ? C'est... Je connais... Alors, je cherche R et je cherche P. Alors, j'ai 14 volts... Ah, évidemment, j'ai des... Max. Et 2 ampères efficaces. Alors 2 ampères efficaces, je suis en efficace, donc je suis bon. C'est mes 14 volts qui vont m'emmerder. Donc il faut que je les transforme en efficace. Alors multiplié par 0,707, ça me donne 10 volts efficaces. Enfin, à un poil près, hein. J'arrondis, parce que sinon je m'en sors pas. Je vais me balader avec des chiffres. Donc ça me fait 10 volts. Maintenant, alors on me demande la résistance et la puissance. Donc résistance et puissance. R est égal à U sur I. U c'est 10 divisé par I c'est 2. Ça fait 5 ohms. Bah 14 volts max. Ouais, ça me fait 10 volts efficaces. Bah oui, eh oh, ma loi d'eau, mais je... Et P égale UI. Même chose. U, 10, fois I, 2. 20 watts. Bah non, la loi d'Ohm, elle ne marche que avec la tension efficace. Hein. Ah non, la loi d'Ohm. Voilà, donc j'ai retrouvé ma loi d'Ohm et je suis un homme heureux et efficace et comblé. Voilà. La semaine prochaine. Après avoir vu les résistances, on va rajouter les bobines et les condensateurs. Et alors là, on va s'apercevoir que c'est une catastrophe parce que les bobines et les condensateurs, ça devient des résistances. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va compliquer ? Oh non, bah attendez, attends, oui. Ça, c'était la cerise sur le gâteau, la bobine qui devient condensateur et le condensateur qui devient bobine. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. On verra ça la semaine prochaine. Sur ce, bonne soirée et à la semaine prochaine.